Nous allons commencer. Que Dieu vous
Preghiamo e ci
bénisse.
accostiamo
Nous
al
allons
trono della
prier
grazia.
et nous approcher du trône de la grâce.
Fiduciosi che ancora questa sera
Plein de
ci
confiance.
riserva le sue benedizioni. Grazie, Signore.
Merci Seigneur.
Grazie di poter avere questa privilegio.
Merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir nous présenter encore devant toi. Tu es notre Dieu sauveur et tu as fait une œuvre merveilleuse. Et voilà les fruits devant toi. Puisses-tu nous bénir, sanctifier encore ce moment, nos cœurs ont soif de ta parole, de ta présence, et que ta bénédiction descende dans les cœurs. Cette paix, cette vie, la vie qui était en Christ Jésus, tu l'as apportée dans ton Église, dans le corps du Christ, dans chaque membre, que tu puisses encore bénir nos vies. Nous sommes dans l'attente et nous avons tant besoin, faim et soif de toi, de la vie qui est en Christ Jésus. Voilà pourquoi encore ce soir, tu es avec nous, tu es parmi nous et tu vas encore nous parler. Tu vas encore édifier ton Église, tu vas encore édifier nos cœurs et tu nous feras aller de l'avant avec toi. Oui, Seigneur Jésus, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses qui sont encore en attente ici. Et toi, tu dois intervenir. Et nous croyons que tu vas le faire encore ce soir. Dans le secret des cœurs, tu vas encore parler à nos cœurs. Et tu vas bénir nos cœurs. Nous te rendons grâce, honneur, adoration pour tout ce que tu es capable de faire. Par l'homme, mais toi. Et que la puissance de ton esprit et tout ce que tu vas pouvoir faire maintenant, nous te remercions pour tout cela. Et nous t'honorons. C'est toi qui nous rassemble, qui nous réunit. Gloire, honneur et adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Amen. C'est parti, tu entends, tu es là. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'influence. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais ici, on a un extrait de la lettre circulaire 30 du frère Franck de octobre 1983, qui s'intitule donc ce paragraphe Influence. Le Seigneur, disons, a béni le ministère de cet homme, et ainsi que le frère Branham aussi, qui a prêché là-dessus. Et Dieu a vraiment voulu nous laisser un juste guide. La connaissance, la révélation, de façon que nous puissions être vraiment préparés et édifiés. Nous allons commencer à lire la lettre circulaire. Influence. Beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais en considérant leur vie de plus près, on peut constater qu'ils sont dominés par des esprits, que leurs sens sont dérangés et que partout où ils vont, ils occasionnent du malheur. Leurs paroles peuvent être très pieuses, mais leurs fruits rendent témoignage de l'influence sous laquelle ils se trouvent. Ça, on l'a tous compris. On comprend tous. Et ça, on l'a vu, on l'a tous vécu et on le vit encore maintenant. Et on voit comment le diable joue avec les âmes, avec les vies, et parce qu'ils n'ont pas assez de discernement et ils se laissent influencer et ils se laissent conduire par des interprétations, par des fausses pensées, des mauvaises pensées, des imaginations, des choses vraiment qui même n'ont pas de fondement, mais que le diable leur fait voir comme si c'était réel, comme si c'était vrai et bon. Donc il y a beaucoup de passages des Écritures que j'aimerais lire, mais avant je voulais continuer lire encore un paragraphe. Lorsque Ève écouta Satan, elle se livra à son influence. Lorsque Adam écouta Ève, il tomba sous son influence. Vous voyez ? Donc, un se répercute sur l'autre. Vous voyez ? Et par cela, sous l'influence de Satan, c'est-à-dire celui qui a parlé le premier. Et c'est exactement dans la même situation que se trouvent tous ceux qui croient une interprétation de la parole originale. c'est-à-dire sous une fausse influence. Ils pensent pouvoir manger de l'arbre de la connaissance sans être touchés par la mort. Amen. Donc, au début, beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit Saint. Je vous les lis dans 1 Roi 22. On va commencer par cela. 1 Roi 22. 19. Et on connaît tous cette histoire. 1 Roi 22, 19. Et le frère Branham et le frère Franck en ont parlé. Les serviteurs de Dieu en ont parlé de ces passages. Ils vont continuer encore à en parler. Donc, c'est Michée, verset 19. Et Michée, donc 1 Roi 22, 19. Et Michée dit : c'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit : qui persuadera Achab, afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Galat? Et celui-ci dit ainsi, et celui-là dit ainsi. Et un esprit sortit et se tint devant l'Éternel et dit : moi je le persuaderai. Et l'Éternel lui dit : comment ? Et il dit : je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit : tu le persuaderas, et aussi tu réussiras. Il y a aussi cela dans 2 Chroniques 18 aussi. Et le Seigneur en parle encore pour démontrer comment parfois, vous voyez, cet Achab avait cette prétention d'être guidé par le Seigneur avec ses 400 faux prophètes qui étaient là avec lui. Et tout le monde, naturellement, disait « oui, vas-y, vas-y ». Et après, au verset 17, vous voyez, Dieu lui-même, avant même que cet esprit puisse partir, il est écrit ceci, lisez un peu le contexte. Et Michée dit : j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et l'Éternel a dit : ceux-ci n'ont pas de seigneur. Qu'ils s'en retournent en paix, chacun à sa maison. Donc pour Dieu, il ne veut pas partir à la guerre. Donc il fallait qu'il voulait qu'il les laisse libres. Il voulait que cette histoire-là se termine là. Mais non, voilà. La prétention de Achab a fait en sorte que on en arrive là à cette suite que qu'on a lue. Donc beaucoup, c'est pour ça que Frère Franck dit que beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais en considérant leur vie de plus près, on peut constater qu'ils sont dominés par des esprits. Donc, bien sûr, on parle d'Achab, mais il y a encore d'autres exemples. Il y a aussi Saoul, par exemple, qui était loin du Seigneur, et qui, malgré tout, on peut le lire dans 1 Samuel 15, 21, avec sa désobéissance, ce qu'il a fait, la manière dont il l'a fait, et pourquoi il l'a fait. Vous voyez ? Qui l'a influencé ? Le peuple, parce que le peuple a dit « mais non, pourquoi est-ce qu'il faut encore attendre le prophète ? Il n'y a pas besoin, nous-mêmes on peut le faire, nous-mêmes on peut sacrifier. » Vous voyez l'influence, comment ça arrive ? Les pensées qui viennent et qui stimulent le cœur et l'esprit de ceux qui sont sujets à être séduits. C'est vrai, parce que c'est une séduction, c'est une grande séduction. Et aussi, donc, c'est dans 1 Samuel 18. On peut même le lire, si vous voulez. Lisons un peu. 1 Samuel. Vous voyez que, vous voyez que Saoul ne se rendait pas compte qu'il était possédé. Parce qu'il est écrit ici, Le mauvais esprit envoyé de l'Éternel vint sur Saoul, vous voyez, et puis il voulait tuer David. On le voit bien clairement. Donc, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte de ce qui se passe. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé des serviteurs. Dieu a envoyé la parole afin que la parole puisse corriger cette tendance, ce type d'influence. Et puis après, un peu après, comment le Seigneur va nous faire rentrer plus dans la profondeur. Lisez Psaume 32:2 par exemple. Psaume 32:2. Des passages que nous connaissons et parfois on le survole sans les peser, sans réaliser la portée. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. C'est important ça, voyez. Donc on peut vraiment voir comment il est nécessaire d'être toujours simplement influencé. Donc c'est pour ça que Frère Franck dit que c'est Ève qui a été influencée par Satan, parce que c'est Satan qui est à l'origine des influences mauvaises des pécheurs depuis la Genèse et jusque maintenant. Et des fois on fait des choses. Parfois on imagine bien, bonne. Et voilà. Et après, il faut quand même que la vie montre ce qu'on prétend être, le fruit. Il y a aussi un autre passage de Matthieu 8, 23. Très important aussi. Parce qu'on parle du fruit. Le fruit que l'homme doit porter. Donc, c'est du fruit qu'on connaît l'arbre. Donc la bouche parle de ce qui abonde dans le cœur. Jour du jugement, chaque homme me rendra compte de toute parole qu'il aura dit. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras aussi condamné. Vous voyez la précision. Que Dieu le Seigneur nous fait la grâce de recevoir. Jacques aussi. 1, 22. Celui qui se regarde dans le miroir et qu'il oublie sa face, Jacques. Donc il écoute la parole et puis hop, il oublie. Donc c'est important que cette chose-là se passe. Et aussi, 2 Pierre 1, 8. On va encore lire ça. Ce qu'on a lu aussi avec Franck dimanche. Très important dans 2 Pierre 1, 9. On parle des vertus de cette pyramide, disons. Donc on en a parlé. Lisons à partir du verset 8. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne sont pas, ne se trouve pas, est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous, d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Voyez comment il faut vraiment une conduite du Saint-Esprit. Romains 8 aussi, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alléluia. voyez. Et surtout, cette parole, faites attention, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça vous notez. Donc, le frère Franck écrit, c'est exactement dans la même situation que se trouvent tous ceux qui croient une interprétation de la parole originale, c'est-à-dire sous une fausse influence. Ils pensent pouvoir manger de l'arbre de la connaissance sans être touchés par la mort. Dans l'interprétation, si vous sondez les Écritures, il y a toujours une malédiction. Parce que dans l'interprétation, il n'y a pas de révélation. On peut le lire. On peut lire des choses. On peut lire ça aussi dans Genèse. 4.36. Genèse 4.36. Parce que dans l'interprétation, il manque la révélation. Et c'est pour ça qu'on interprète, c'est pour ça qu'on dit des choses fausses. C'est pour ça que c'est sous la malédiction, sous l'influence du diable. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Simplement cela, c'est tout. Voilà pourquoi c'est une malédiction. L'interprétation, c'est une malédiction. Ça vient du diable. Voilà pourquoi jusque maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts. Donc, Genèse 4. Lisons Genèse 4, 3. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel lui eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Est-ce que vous ne croyez pas que Caïn avait interprété à sa propre manière l'offrande qu'il devait offrir à Dieu? Bien sûr. Il a interprété à sa manière. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé que c'était pas ça le bon chemin, la bonne voie. Parce qu'il n'avait pas de révélation. Mais Abel avait la révélation. Il avait la révélation devant Dieu que c'était seulement à travers le sang qu'il pouvait y avoir le salut. Seulement par le sang qu'on pouvait payer le jugement via le cœur de Dieu. Et en effet, c'était ça. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ est celui qui lave, qui purifie, etc. Mais comme il y avait une interprétation, et comme il n'y a pas d'interprétation, ça devient automatiquement une malédiction, et on est sous le jugement. Et on fait des choses qui sont hors du contrôle de la parole de Dieu et de Dieu. Tout ce qu'on a vu, et comme ici, donc le frère Franck écrit, il pense pouvoir manger de l'arbre de la connaissance sans être touché par la mort. Manger de l'arbre de la connaissance sans être touché par la mort. On a toujours dit qu'il y a un prix, il y a toujours un prix à payer. N'est-ce pas? Toucher à l'arbre de la connaissance du bien. Et vous voyez, hop, automatiquement, on s'éloigne de la grâce. On s'éloigne de la grâce. Vous voyez? Donc il y a toujours un prix à payer en toute chose. Donc j'ai noté mes notes. Chaque conquête, il y a toujours une épreuve. Dans chaque conquête qu'on fait, il y a toujours une épreuve. Dans le chemin spirituel, dans le chemin divin, à chaque conquête qu'on fait par la foi, donc je prends la chose par la foi, cette parole, cette révélation, il y a toujours une épreuve. Il y a toujours une épreuve qui arrive. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours une épreuve. Et il faut aller au-delà de cette épreuve. Il faut la surpasser. Comment? Avec l'interprétation ou bien avec la révélation? Alléluia. Vous voyez, que Dieu vraiment bénisse nos cœurs et nous fasse grâce et qu'il nous aide à comprendre que vraiment l'interprétation, quand on ne sait pas une chose, c'est mieux de se taire et d'attendre que Dieu nous parle, que Dieu se révèle à nous. Et alors là, on sera toujours sous la grâce de Dieu, sous la protection du Saint-Esprit de Dieu. Et ça, c'est important. Amen. Parce que chaque chaque conquête qu'on fait, chaque petite bataille qu'on gagne, il y a toujours un prix. Et puis encore, donc le frère Franck écrit ici, donc il pense manger de l'arbre de la connaissance et être touché par la mort, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Toute interprétation particulière de la parole a le poison du serpent ancien en elle-même. Dans chaque interprétation, il y a la malédiction. C'est la raison du sérieux avertissement de 2 Pierre 1:20 qu'on a écouté dimanche. Disant qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Amen. C'est vrai. Que le Seigneur garde vraiment nos cœurs sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Là où il y a la pleine révélation, il y a la pleine conscience que nous avons été et que nous continuons à être vraiment sous la parole révélée et conduit par l'Esprit de Dieu. Et il est nécessaire que ce soit comme ça pour arriver à la préparation. Amen. Je continue à lire. Tous les prophètes envoyés par Dieu se trouvaient sous l'influence divine, parce que la parole de Dieu était venue à eux. Amos 8:3. On sait que Dieu se révèle sa parole à ses serviteurs les prophètes. Et c'est ce qui s'est passé dans ces derniers temps, en envoyant le prophète de la dernière époque de l'Église, de l'époque de l'Odyssée. Il nous a révélé cette parole. Donc il était sous l'influence divine, même si, comme on l'a entendu, même s'il y a eu des personnes qui ont dit « c'est un faux prophète », parce que selon eux, 1977, c'est pas arrivé, ou selon eux, d'autres prophéties ne sont pas accomplies, etc. Vous voyez. Mais il était toujours sous l'influence divine parce que la parole était donnée à eux. Faites bien attention à cela, celui que Dieu vraiment scelle cette soirée, ces paroles dans nos cœurs. Celui qui croit la parole telle qu'ils l'ont apportée se trouve sous la même inspiration du Saint-Esprit. Moïse avait reçu une commission divine, il était envoyé de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça ne fait pas penser Jean 7:37? Celui qui accepte le prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. C'est pas pour une personne, c'est pas pour deux, c'est pour tous ceux qui acceptent exactement ce qui est écrit ici. Celui qui croit à la parole telle qu'ils l'ont apportée se trouve sous la même inspiration de cet esprit. Moïse avait reçu une commission divine, il était envoyé de Dieu. Nombre 25. On a prêché une fois, je me souviens plus quand. Le même esprit de Moïse s'est posé sur eux. Sur les anciens. Sur 70 anciens. Oui. Donc, ces 70 personnes qui étaient là, ils ont reçu la même chose. Donc, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour l'Église de Jésus-Christ. C'est pour le corps du Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous, on en fait aussi partie. Nous, on en fait partie aussi. Parce qu'on est fils, c'est écrit, fils des prophètes, selon la parole de Dieu, spirituellement, comme on l'est parfois, fils d'Abraham aussi. Et cette chose-là, ça doit être ancré en nous, ça doit rester en nous. Et ça ne doit plus partir. De façon que la juste onction, la juste influence nous guide tout au long de notre chemin, tout le long du chemin. Alléluia. Sans avoir des pierres d'achoppement, sans avoir... Mais il est vrai que parfois on peut avoir un moment d'égarement. Mais quand la révélation vient, quand l'Esprit Saint vient, il vient dans notre cœur et... Sur notre chemin, tout le reste se met en place. Stop, et c'est fini. Voilà pourquoi on continue à dépendre du Seigneur et d'être guidé par lui. Donc, frère Franck, je continue à lire. C'est pour cela qu'il se trouvait sous l'inspiration juste et qu'il fut conduit par l'Esprit de Dieu. Aussi longtemps que le peuple l'écoutait et croyait ses paroles, il se trouvait sous la même influence divine que Moïse. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est la réalité. Tant qu'on écoute la parole de Dieu, l'authentique parole de Dieu, on ne peut pas se perdre. On ne peut pas se perdre. Impossible. C'est impossible. On ne peut pas être sous une autre influence. Il est vrai qu'on n'est pas encore ce qu'on voudrait être, mais on est toujours sous l'influence divine de la parole révélée de Dieu. Alléluia. Et là, on ne peut pas fuir de ces choses-là, de cette voie-là. On ne peut pas se perdre. Il ne peut jamais y avoir, disons, c'est pas possible que notre cœur s'accroche à une interprétation, qui est une chose qui est sous la malédiction, parce que le Seigneur va m'en garder. Il me fera faire attention à cette chose. Donc je continue à lire. Sous quelle influence se tenaient donc Corée, Dathan, Abiram et les 250 qui? Et les 250 qui, après s'être soulevés contre Moïse, présentaient le parfum devant le Seigneur? Vous voyez? Ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés. Parce que eux aussi, ils pensaient avoir part. Bien sûr, ils avaient, mais à leur place à eux, chaque chose devait rester à leur place. Mais eux, ils voulaient quelque chose en plus. Ils voulaient quelque chose de plus. Ils ont eu des pensées étrangères, une influence étrangère. Une chose qui venait directement du diable. Et tous ceux qui les écoutèrent tombèrent sous la même influence diabolique et se précipitèrent avec eux dans la perdition. Dieu ne change ni sa parole, ni sa manière de faire. Regardez combien de petites églises il y a. C'est pas le problème de quantité du nombre d'églises. C'est pas ça le problème. Il peut y avoir beaucoup d'assemblées. Mais ce sont les différents esprits qui sont à l'œuvre. Il doit y avoir un seul esprit à l'œuvre. Il peut y avoir une centaine d'églises, mais toutes conduites par le même Saint-Esprit, c'est bon. Mais on voit que toutes ont leur propre interprétation et chacune pense à sa propre manière. Et chacune dit « moi j'ai raison », l'autre dit « moi j'ai raison ». Et tout le monde a raison et c'est du 14 alors. Ça fait pas l'ombre de doute. Et le dernier 14 alors c'est Dieu, voyez. Vous pensez un peu la chose, c'est pas possible. Donc c'est grave ça, parce qu'ils traînent derrière eux, ils tirent derrière eux sous leur influence, sous leur guide, sur leur guidance, sur les autres âmes. Ils tirent après eux les âmes, et on l'a déjà vu, et vous l'avez déjà vu, et on le constate encore aujourd'hui, et c'est ça qui est grave, que Dieu nous en préserve, vraiment, je le dis de tout mon cœur, parce qu'on est vraiment en train de s'approcher de la pierre de fête, on est tout près de la pierre de fête. Donc cette assemblée, cette grande église Dieu a donné son nom est sous la conduite et elle doit recevoir toutes les instructions possibles et imaginables que Dieu a préparées afin qu'elle soit prête pour partir. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? On le croit. Amen. Donc frère Franck continue. Maintenant, chacun doit se poser la question de savoir sous quelle influence il se trouve dans tout ce que nous faisons. C'est la question qu'il faut se poser chacun d'entre nous. Parce que c'est important de se poser la question, Seigneur, sous quelle influence est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis sous l'influence de l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est toi qui me guides? Est-ce que c'est toi qui me parles? Ou il y a quelque chose d'autre, un autre esprit, où il y a ma prétention ou ma personnalité, ma propre conduite, ma propre vie, voyez. Nous, il faut se poser cette question, il faut le faire, du matin au soir. Vous y croyez? Amen. Du matin au soir, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas bien à la parole, on dit Seigneur, Qu'est-ce que tu peux encore m'inspirer? Et à ce point-là, on peut réaliser la présence de Dieu. On peut avoir la guide du Saint-Esprit. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Donc je continue la lecture. Donc, nous trouvons-nous dans le strict domaine de la parole de Dieu? Nous trouvons-nous dans le strict domaine de la parole de Dieu? Quelles étaient ces personnes-là que devait écouter le peuple de Dieu? C'est-à-dire, c'est ceux que le Seigneur leur avait envoyés. Vous voyez? Donc je reprends. Quels étaient ceux que devait écouter le peuple de Dieu? Ce sont des ministères, afin que les saints soient préparés. Ceux que le Seigneur leur avait envoyés. Dans l'Église du Nouveau Testament, il avait établi des ministères, afin que les saints soient préparés. Éphésiens 4, 11, Amen. Voilà. Donc, qui devait-il écouter? Le peuple. Qui devait-il écouter au commencement, quand il y avait eu le réveil qui a commencé? Qui devait-il écouter? Faites attention. Ici, on ne parle pas d'élever, d'abaisser, non, c'est pas ça. Ou mettre devant, non. Mais qui devait-il écouter? Qui devions-nous écouter? On a reçu une photographie il n'y a pas longtemps, des années... Je crois que c'est 88 ou 89. Il y avait beaucoup de frères italiens là-bas, beaucoup de frères, et aussi de France. Beaucoup de frères là-bas, dans la photo. C'était à Krefeld, avec Frère Franck. Mais de ceux-là, combien sont-ils restés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et plus tard, plus loin, on en parle un peu. Donc vraiment, que le Seigneur fasse grâce. Donc Frère Franck continue. Dans l'Église du Nouveau Testament, il a établi des ministères afin que les saints soient préparés. Éphésiens 4, 11. À aucun autre endroit, il est parlé que des femmes auraient été établies comme apôtresses, prophétesses, évangélistesses, pastoresses et doctoresses. Au contraire, donc vous voyez. Donc n'oubliez pas que nous sommes en train de parler du mariage, divorce, position de l'homme, de la femme, etc. On parle de ça, on parle du sujet. Et petit à petit, les sujets sortent. Vous voyez l'affluence. Donc, au contraire, Paul, par le commandement du Seigneur, leur a indiqué aux femmes la place qui leur appartenait. Pourrions-nous imaginer qu'il soit écrit dans la Bible « Avez-vous entendu ce que Madame Abraham ou Madame Moïse a déclaré ?» Avez-vous entendu ce que Madame Pierre ou Madame Jacques a dit? Oh, vous devriez entendre ce que Madame Branham a à dire. Où se rend-elle? Elle est certainement une prophétesse. Cela nous serait inimaginable. Cependant, nous sommes aujourd'hui coupables de ces mêmes choses. Exactement, sans en avoir saisi la portée. Vous voyez? Toutefois, aujourd'hui, nous sommes aussi coupables de ces mêmes choses, exactement sans en avoir saisi la portée ou la signification. Dans Tite, chapitre 2, et dans d'autres passages bibliques, il est indiqué aux femmes croyantes quelle est leur place d'honneur. Avec cette remarque, cette observation au verset 5, « Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » On s'arrête un peu ici. On va lire cela. Tite 2, 5. Lisons Tite 2, 5. On parle toujours de l'influence ici. Hein. On parle toujours du thème de l'influence. C'est ça le sujet. Hein. Donc ne perdons pas de vue ce sujet, l'influence. Tite, chapitre 2. Tite 2, 5. On va commencer au verset 3. Commençons à Tite 2, verset 3. Voilà, c'est ça le sujet. De même que les femmes âgées, soient dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et pourquoi est-ce qu'elle serait blasphémée dans ce cas-là? Vous voyez? Pourquoi aujourd'hui, là, donc le frère Franck est dit, pourquoi la parole est-elle blasphémée? Parce que chacun discourt en philosophant à sa manière. Nous savons toujours dire ce que les autres devraient faire, mais nous ne pensons pas à occuper la place qui est la nôtre. Donc il y en a toujours une exhortation pour les autres, mais on a des difficultés à nous-mêmes à nous insérer dedans, à nous greffer dedans pour avoir notre juste place. Moi, je me souviens, je me donne un petit témoignage. C'est ma vie personnelle et privée, avec ma première épouse qui est décédée. Au début, quand on s'est converti, on avait peu de choses. On commençait, on démarrait. Et puis après, le feu de la parole est venu. Ce qu'il y a eu au tout début, on a été bénis par le Seigneur. On allait trouver des gens, on allait faire des visites pour prier, pour exhorter, pour exposer la parole de Dieu. Et bon, moi je parlais, mais souvent il y avait ma consœur, ma femme qui venait aussi parler parce qu'elle pensait qu'elle pouvait aussi apporter quelque chose. Mais automatiquement, une fois, deux fois, trois fois, et pour finir, on a dû vraiment mettre fin à cette chose-là. Parce qu'elle était en dehors de sa place complètement. Et je vous garantis que pas seulement, à part que moi, je lui ai dit et je l'ai expliqué dans les Écritures, mais Dieu aussi lui a parlé directement. Je ne veux pas dire à voix audible, mais je veux dire qu'elle a compris parfaitement quel était le rôle de la femme à partir de ce moment-là. Et je crois que les frères qui l'ont connue, ils peuvent témoigner de ce qui s'est passé dans sa vie. Ma femme s'est mise vraiment à sa place. Je remercie Dieu de tout mon cœur pour toutes ces années, toujours dans ce service de Dieu. Elle a toujours été une grande bénédiction avec les sœurs, avec les jeunes, les enfants. Elle a été une grande bénédiction. Je le dis comme témoignage devant le Seigneur. Mais c'est une expérience. C'est une expérience dans laquelle chaque croyant, chaque femme croyante doit recevoir de Dieu. Si elle n'a pas, elle doit recevoir, elle doit demander à Dieu. Parce que c'est nécessaire que cette parole soit appliquée réellement. Proverbe, on va aussi lire Proverbe 31, le dernier proverbe du chapitre, vous connaissez, quand on parle de la femme, vis-à-vis du mari, vis-à-vis, disons, de la personnalité qui guide. Voilà pourquoi chaque homme, dans sa maison, c'est un ancien, c'est un pasteur, comment dire, c'est un guide, c'est une guide. Donc il doit y avoir cette faculté de conduire la famille, la maison, dans la vérité, dans la pleine vérité et dans la soumission à la parole de Dieu. C'est très important. Parce que cette influence, elle est grave. Parce que le frère Franck ici, il dit, pourquoi est-elle aujourd'hui blasphémée? Parce que chacun discourt en philosophant à sa manière. J'aime bien comment il le dit. Chacun discute à sa manière en philosophant. Facile de donner une exhortation aux autres, c'est facile. C'est vrai, n'est-ce pas? On est tous conscients de cela. toujours facile. Pour moi, donner l'exhortation, ah, sœur, fais ça, frère, fais ça. Mais moi-même, pour moi-même, qu'est-ce qui se passe? Que vraiment, que maintenant qu'on l'a écouté, qu'on puisse vraiment la digérer et la sceller dans le cœur et dire, Seigneur, tu as raison. Garde-moi de toute désobéissance, de toute erreur, de toute désobéissance, alléluia, de façon que nous ayons la victoire. Dieu nous a donné la victoire. Le sang de Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie, c'est une victoire totale pour nous tous, hommes et femmes. Et nous tous, nous devons trouver notre place. Alléluia. Donc le frère Franck continue. Ainsi parle le Seigneur au travers d'Ésaïe 3:12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Regardez ces paroles. Par l'Esprit, le prophète Ézéchiel a reconnu de quelle manière cette domination était exercée. Vous voyez? Ce type de cette façon d'agir, cette façon de faire. Et dans Ézéchiel 13:17, le Seigneur lui commande. Et on voit comment les femmes sont capables d'influencer. Vous savez que le frère Branham, vous l'avez lu. Et ça m'a frappé, ça m'a vraiment frappé, je le dis de tout mon cœur. Donc je parle d'expérience faite. Il disait que chaque épouse influence le mari, et elle l'influence. Là, il n'y a aucun doute, parce que c'est une aide, semble qui lui est convenable. Mais il est vrai qu'il y a aussi influence et influence. C'est-à-dire l'homme doit rester guidé par le Saint-Esprit, mais la femme influence le mari, ça il n'y a aucun doute. Il nous a aussi dit que chaque homme a une femme qu'il mérite. Et ça c'est vrai. Chaque homme peut avoir une femme qu'il mérite. Donc ça, je le dis, il a aussi dit ça. Mais regardez vous-même, regardez, si ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez une femme que vous ne méritez pas? Vous l'avez? Vous devez simplement faire attention à ne pas laisser, à ne pas faire que l'influence, une influence mauvaise, prenne le dessus. Mais la femme, elle influence, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, je dis ainsi du Seigneur, c'est sûr. Ça c'est vrai, parce qu'Adam, déjà dans le jardin d'Éden, il a été influencé par la femme. Donc, Franck l'a dit ici. Ève a été vers le mari et le mari a été influencé par Ève. Pas de doute. Donc là, je parle de ce champ-là. Mais maintenant, il y a d'autres champs, d'autres types d'activités ou domaines plutôt. Voilà. Mais que Dieu vraiment nous ouvre le cœur, l'entendement. Pour prendre la juste place que Dieu t'a donnée et aussi à l'épouse que tu as. Ça, c'est la réalité divine. Ça, c'est la réalité divine. Si vous sortez de cette réalité, vous êtes dans la désobéissance et vous êtes sous la condamnation de Dieu. Que ce soit homme ou femme, qui n'est pas à sa place, qui est sous d'autres influences, comme on l'a lu, avec Dathan, Corée, etc., et tous les autres, c'est une chose qui devient grave. Donc maintenant, on est à la fin, mes amis. On est à la fin de l'accomplissement du plan de Dieu envers nous tous. Nous qui espérons et croyons en Christ et que nous désirons vraiment de tout notre cœur que cette soirée même, que toute chose s'arrête et qu'on puisse aller avec le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Que tout ça cesse. Mais si le chemin est encore quelques jours à passer, que Dieu nous aide à faire attention. Que Dieu veille sur nous pour nous faire faire les choses justes. Ce sont des corrections. Frère Branham l'a fait. C'est clair. Donc chacun d'entre nous doit prendre sa responsabilité. Moi, je prends la mienne et toi, tu prends la tienne. Prenons la responsabilité devant Dieu, les anges, la parole de Dieu. Il faut prendre la responsabilité. Amen. Moi, je crois que c'est merveilleux. Si on s'approche de la perfection, on s'approche en fait de la perfection. N'est-ce pas? C'est vrai. On s'approche de la perfection. Ce sont des choses claires, nettes. Moi, ça me réjouit. Je suis vraiment joyeux de cela. Donc, dans Ésaïe 3, 12, donc regardez, on va encore le relire. Vous pouvez même le lire dans la Bible, Ésaïe 3, 12. Ésaïe 3, 12. On peut commencer au 10. Dites aux justes que le bien lui arrivera, car ils mangeront le fruit de leurs actions. Malheur aux méchants, il lui arrivera du mal, car l'œuvre de ses mains lui sera rendue. Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment, et des femmes le gouverne. Vous voyez? Mon peuple. Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment et des femmes le gouvernent. Vous voyez? Des femmes qui le gouvernent. Vous voyez? Donc il parle vraiment de ce qu'on a dit jusque maintenant. C'est une chose réelle, qui est vraie. Voilà pourquoi, des fois, on se laisse traîner, inclure de ces choses-là, sans se rendre compte. Mon peuple, ceux qui te conduisent, te fourvoient et détruisent le chemin de tes sentiers. Pas seulement eux sont trompés, sont égarés, mais toi aussi, toi qui les suis. Vous voyez? Mon peuple, ceux qui te conduisent te fourvoient et détruisent le peuple, le chemin de tes sentiers. L'influence te conduit toujours vers un chemin égaré. Il ne te conduit jamais à faire la juste volonté de Dieu. Ça, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Donc, frère Franck continue ici. Il a écrit dans Ézéchiel 13, 17. Donc, un peu plus haut, par l'esprit, le prophète Ézéchiel a reconnu de quelle manière cette domination est exercée. Et dans Ézéchiel 13, 17, le Seigneur lui commande, « Et toi, fils d'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. » On parle toujours de l'influence, c'est ça le sujet. « Prophétise contre elles. » Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, des petits coussins mous, voyez, pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Voyez. Donc le frère, on lit Ézéchiel 13, 17. Le frère Branham a parlé de ces choses-là dans Ézéchiel 13, 17. Le frère Branham a parlé de cela. Donc c'est le siècle présent. Où il est écrit, voulez-vous prendre au verset 18 et 18. Donc, et après il est écrit, voulez-vous prendre au piège les âmes de mon peuple et vous conserver la vie à vous-même et vous et me profaneriez-vous auprès de mon peuple pour des poignées d'orge, etc. Tout ça, c'est pour empêcher de réfléchir, pour distraire et empêcher de réfléchir. Voilà pourquoi la femme L'influence, c'est ça l'influence de la femme, des mamans même, des filles qui commandent, même des enfants qui commandent, vous voyez? Et c'est écrit, c'est écrit. Donc Dieu doit nous aider à prendre en main la direction de la parole de Dieu. Parce que ça n'a pas été donné à la femme, ça a été donné à l'homme. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ça a été donné à l'homme. Alléluia. La femme, c'est une aide. L'aide semblable, ça ne veut pas dire d'influencer. C'est une aide. Proverbe 31. On peut lire ça dans le Proverbe 31. Référez-vous, lisez cela. Je continue. Le frère Franck écrit, quoi qu'elles arrangent, convient à chaque situation, que cela arrive d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est jamais en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez? C'est comme si elle retombe toujours. C'est comme si elles avaient les mains d'or, là. Je ne sais pas comment dire. Que tout va bien pour elles. Quoi qu'elles fassent, elles tournent en rond et ça arrive toujours bien. Mais attention, je l'ai souligné, attention à cela. En rouge, j'ai bien souligné, c'est en rouge. Frère Franck écrit, celui qui écoute réellement le prophète envoyé de Dieu et qui a reconnu son ministère, celui-là se retirera aussitôt de toute influence étrangère. Je m'humilie, frère Franck écrit, je m'humilie devant le Dieu Tout-Puissant, parce que moi aussi j'ai manqué, et que par manque de connaissance, j'ai agi selon la manière coutumière, la manière habituelle. Naturellement, il parle des années passées. Il parle des années 70, par exemple, quand il y avait même cette histoire-là, où les gens ont mis en doute son ministère. Il y avait un esprit mauvais, il y avait une influence qui était venue pour faire en sorte que les soi-disant prophéties fausses mettaient en doute son mandat. Et alors lui, il se disait, comment Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Seigneur? Et même, on lui disait que lui devait se taire et que les autres devaient parler. Vous voyez où l'influence satanique, diabolique, est allée. Cette interprétation est allée. Et tout ça, c'est sous le jugement de Dieu. Et ça vient du diable. Quand on peut voir tout ça, clair, hein, on dit Seigneur. C'est vraiment une grâce. Si vous pouviez voir ces choses, c'est une bénédiction. Parce que c'est pas tout le monde qui le voit. C'est pas tout le monde qui l'a réalisé. Est-ce que vous croyez cela? Voyez un peu ces choses-là. Ce n'est pas tout le monde qui a réalisé cela. Donc, à plus forte raison, nous-mêmes sommes responsables de mettre en ordre, de mettre en place toutes choses. Et de nous éloigner de toute influence étrangère. Loin, loin. Seigneur, je ne veux pas de cela. Je veux que ce soit toi qui influence ma vie. L'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint. Si Dieu veut, dimanche, on va parler un peu de cela. De l'Esprit Saint. On va un peu parler de l'Esprit de Dieu. On va parler de l'attente. Parce que c'est une chose de profond et de merveilleux. Il ne faut pas laisser fuir cela. Parce que c'est très important. Parce que si je me présente devant l'attente, je ne peux pas rester. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ma parole ne sortira pas à vide, ne rentrera pas à vide. Sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pourquoi, me présentant devant l'attente, Dieu doit obligatoirement me parler. Doit obligatoirement me faire mettre en ordre les choses. Vous y croyez? Alléluia. Ça, c'est la vérité. Vous y êtes? Ça, c'est la vérité. Parce que je manque de sagesse parfois. Pour la recevoir, je dois m'approcher de Dieu. Et écouter ce que Dieu me dit. Sinon, je n'aurai aucune sagesse. J'aurai de la sagesse qui vient du prince de ce monde. Juste, vous y êtes? Voilà pourquoi c'est nécessaire. Mais ça, c'est... Voilà, je continue la lecture. Celui qui écoute réellement le prophète envoyé de Dieu et qui a reconnu son ministère, celui-là se retirera de toute influence étrangère. Regardez. Ce que le frère Franck dit maintenant, c'est une chose qui vous fait sauter en l'air. Je m'humilie devant le Dieu Tout-Puissant parce que moi aussi j'ai manqué et que par manque de connaissance, j'ai agi selon la manière coutumière. Combien souvent le Seigneur a parlé d'une manière puissante au travers des prédications de Frère Branham que nous avons traduites, mais sitôt après, nous avons attendu que le Seigneur nous parle sans comprendre qu'au travers des prédications, le Seigneur nous avait déjà parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je l'ai vécu. Et beaucoup l'ont vécu. J'ai noté ici, dans mes notes, voilà où, au tout début, il y a eu une erreur. Qu'est-ce qu'on a tous fait au début? Nous voulions une preuve ou bien une manifestation surnaturelle de Dieu. C'est-à-dire qu'on a eu un contact, on a eu la bénédiction, on a été pénétré par l'Esprit de Dieu, et on voulait encore quelque chose encore en plus de tangible, de visible, pour une démonstration de Dieu envers nous. Et voilà que sont arrivés les parleurs langues, et voilà qu'arrivent des prophéties, et voilà des choses. Donc on voulait une confirmation en plus. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Je le dis devant Dieu, de tout mon cœur. On cherchait toujours plus, ou je voulais toujours chercher quelque chose de plus. Mais quelle confirmation! Et pourtant, mon cœur, il brûlait déjà de la parole de Dieu. Vous voyez? Mais on voulait encore quelque chose encore plus. Donc voilà, je l'ai vécu, je le dis devant Dieu, de tout mon cœur. Mais c'était faux, parce que Dieu, à travers la brochure, à travers la prédication du frère Branham, il avait déjà expliqué ce qu'il devait expliquer. Ce que toi et moi, nous devions savoir à ce moment-là, quand on l'a lu. Ce type de brochure, la prédication, et dedans, il y avait déjà la réponse dont tu avais besoin. Mais on a sauté au-dessus de cela, et voilà. Donc je continue à lire. Au lieu d'accorder la première place au message divin et d'écouter ce que l'Esprit avait à dire à l'Église au travers de la parole, au travers de la parole vous y êtes, pas à travers des signes particuliers, des signes spéciaux. Non, c'était déjà la parole qui doit triompher, qui devait triompher, qui devait enseigner, qui devait guider. Amen. Le reste, ça vient après. Mais la chose principale, c'était ça, la parole. Voilà, c'est ça qui nous est... C'est pour ça que tout le monde est tombé, l'un plus qu'un autre. Chacun à son niveau. Même au niveau international, tout le monde... Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions, beaucoup de choses. Mais que le Seigneur illumine aujourd'hui, ce soir, nos cœurs. Et qu'il nous fait comprendre, qu'il nous fasse comprendre beaucoup de choses, que beaucoup de choses du passé étaient fausses, ont été erronées. Mais petit à petit, Dieu les corrigeait. Et il y en a qui se sont laissés corriger, et il y en a non. Et il faut le dire, et je peux le dire avec toute la réalité divine. Donc, et d'écouter ce que l'Esprit avait dit à l'Église au travers de la parole, nous attendions que quelque chose vienne encore s'y ajouter, qu'il vienne encore s'ajouter au message. Mais franchement, qu'est-ce qu'il devait encore s'ajouter si ce n'est le message? Alors qu'on savait pertinemment que c'est le message. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, ainsi tu seras envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est le message qui devait nous préparer. Ce n'est pas tout, comment dire, tous les à côtés, je peux dire comme ça. Toutes ces choses qui sont autour ou à côté. Non, c'est le message, c'est la parole prophétique, la parole juste, qui t'enseigne, qui te fortifie, qui te corrige et qui te met en place, à ta juste place. Et beaucoup ont laissé fuir ces choses, ont laissé couler cela. Et alors beaucoup vont avaler, laissent la mouche, là, le petit moucheron, et ils avalent le chameau. Et ils viennent chipoter avec des petits détails, mais les choses principales et profondes, ils les laissent passer, ils passent à côté. Sur mariage, divorce, sur les serviteurs, sur les anciens. Parlez bien, parlez mal, toutes ces choses-là, voilà. Vous voyez? Et il passe à côté de toutes ces choses importantes. Il ne se rend pas compte. Donc je continue. Ensuite, des résultats ravageurs qui suivirent. Nous avons été contraints de respecter l'ordre biblique de l'Église et de reconnaître le juste usage des dons de l'Esprit comme il est exposé dans la prédication hors de l'Église, notamment, naturellement l'ordre de l'Église ici. Il y a beaucoup d'ordre de l'Église, mais ici, disons, c'est pas un copier-coller, il ne faut pas faire de copier-coller, attention. C'est simplement un mètre de mesure, disons. Donc, c'est pour que l'Église soit guidée par l'Esprit Saint et réaliser la présence du Seigneur, sans confusion, sans mélanger les choses, mettre chaque chose à sa place. Alléluia. C'est ça. Je crois que c'est comme ça. Donc, c'est un peu comme Luc 24. Lisons un peu Luc. Ce passage m'est venu à l'esprit. Luc 24, 13. Pourquoi ce passage, Luc? Parce que Jésus parlait, expliquait tout. Luc 24 expliquait tout à ces deux personnes là. Et pourtant, quand une fois qu'il était mort, tout semblait fini pour eux. Tout était fini pour eux. C'est comme avec Frère Branham. Et c'est comme avec chaque réveil où il y a leader, disons, celui que Dieu avait envoyé comme précurseur, ou bien pour celui qui devait apporter de l'avant l'œuvre de Dieu. Et puis après, la dénomination venait par après. L'esprit dénominationnel est venu après. Regardez avec les Emmaüs aussi, voilà, on lisait. Donc, les deux d'Emmaüs ne se rendaient pas compte que Jésus était là avec eux. Et on le lit. Donc, ils étaient non seulement découragés, mais en plus, ils étaient même séparés du groupe. Alors, regardez le verset 15. Et il arrivait, comme ils s'entretenaient, raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant ? Et vous êtes tristes ?» Oui, ils étaient vraiment tristes, ils étaient abattus. Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondant lui dit, « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui sont arrivées ces jours-ci ? » Et il leur dit lesquelles ? Et ils lui dirent, celles touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant, etc. Donc ils avaient écouté, c'est comme nous, on avait écouté au commencement le message, et puis petit à petit, chemin faisant, on cherchait autre chose, on cherchait des choses en plus, et pourtant la chose était là. Tout était là, il était présent, et Jésus était là. Il suffisait de fermer les yeux, d'écouter, d'obéir, de s'identifier à ce que Jésus nous faisait lire, et l'adopter dans notre vie pratique de tous les jours. L'adopter dans la vie pratique de tous les jours, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est comme ça ou pas? Je ne me trompe pas. Alléluia. Vous voyez? Que Dieu vraiment nous bénisse et nous fasse grâce. Et si je continue, et puis Jésus explique toutes choses. Et puis Jésus, donc au verset 25, et il leur dit, « Ô gens, sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses ? Regardez combien de temps... Mais on peut dire, on a été perdu, et je peux dire combien d'années ont été perdues. Et où sont ces gens-là maintenant? Une chose est certaine. Ainsi disent les Écritures. Le Seigneur ne perdra aucun de tous ceux que mon Père m'a donné. Alléluia. Personne. Ils seront tous enseignés de Dieu, n'est-ce pas? Tous. L'Esprit Saint est celui qui les enseigne, qui les édifie. qui les fait aller de l'avant et qui donne l'équilibre juste, la dimension juste. Alléluia. Donc, on continue. Donc, je continue la lecture du frère Franck. Nous ne vivons pas à n'importe quel moment des presque 2000 ans de l'Église, de la Nouvelle Alliance, mais bien dans la dernière période prophétique. Donc, nous ne vivons pas à n'importe quel moment de ces 2000 ans, mais on arrive à la fin. On arrive à la fin. C'est pourquoi les critères prophétiques de la parole doivent être appliqués. Dans Michée 7, 5, le Seigneur dit « Ne crois pas un ami. » On parle toujours d'affluence. Hein? Michée 7, 5. Ouvrez vos Bibles. Michée 7, 5. Michée 7, 5. N'ayez pas de confiance en un compagnon. Ne crois pas à un ami ou un compagnon. Ne vous fiez pas à un ami. Ne te fie. Donc frère Franck ici, le Seigneur dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. Où donc demeure encore le commandement? Honore ton père et ta mère. Nous avons honoré notre père, et parce que Dieu l'a dit à l'avance, nous sommes méprisés par nos propres fils, afin que l'Écriture soit accomplie et que Dieu soit justifié. C'est vrai, c'est juste. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la vie de tous les jours? Dans la vie d'aujourd'hui? Mais dans le monde, je veux dire même dans une partie du christianisme, et même chez certains du message, on voit ça. Nous ne devrions pas nous étonner de cela, mais au contraire, reconnaître le temps auquel nous sommes parvenus. On est à la fin, vous voyez? Matthieu 10, 34. Prenez Matthieu 10, 34. Il y a une confirmation ici de ce qui se passe aujourd'hui. Matthieu 10, 34, des choses qui arrivent maintenant. Ne pensez pas que je sois venu, encore une autre facette ici, que Dieu fasse grâce. Encore une autre facette ici. Comme on l'a dit l'autre jour, tout son plan de rédemption est basé sur la miséricorde, parce que dès le commencement, il a eu la miséricorde envers sa créature, parce qu'il savait très bien qu'il aurait fait ça. Et s'il y a la miséricorde, il y a aussi le pardon. Et s'il y a le pardon, il y a l'amour. C'est juste. Et s'il y a l'amour, il y a le pardon. Le pardon intervient. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. On peut dire, oui, je t'ai pardonné, comme on dit. On se souvient toujours, hein, on se rappelle toujours. Ah, toi, t'es toujours comme ça. Toi, t'es toujours lui. Toi, t'es la personne qui a volé les patates. Toi, t'es celui qui a fait ça. Toi, t'es celui qui a fait ça. Attention. C'est pas une théorie. C'est une chose réelle. Mais Dieu nous a démontré que quand il pardonne, il ne se souvient plus de nos fautes. Alléluia. Il les a jetées dans la mer de l'oubli. Amen. Donc je lis ici, au verset 34, « Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. » Vous voyez? Ça c'est une partie. Mais non, on lit aussi Luc 12, 51. Lisons aussi Luc 12, 51. Luc 12, 51. C'est une réalité. Et pourtant, Donc je ne parle pas de la morale, du matériel, du physique. Non, non, je parle aussi du spirituel. Représentez-vous les choses. On va y retourner. Donc Luc 12, 51. Luc 12, 51, si je ne me trompe pas. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Car désormais, ils seront cinq dans une maison divisée. Trois seront divisés contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Donc ces paroles-là, tout ça, c'est spirituel aussi. Est croyant, l'autre n'est pas croyant. L'autre est croyant, l'autre n'est pas croyant, vous voyez? Même dans le spirituel, vous comprenez ça? Vous y êtes? Alléluia. Donc on peut voir tout ça, comment ça se manifeste. Comment ça sort, ça ressort. Donc, frère Franck écrit ici. Honore ton père et ta mère. Nous avons honoré notre père parce que Dieu l'a dit à l'avance. Nous sommes méprisés par notre propre fils. Donc, je ne veux pas rentrer dans la vie privée de personne. Mais on sait très bien ce qui s'est passé là, à Krefeld et dans d'autres endroits. Afin que l'écriture soit accomplie et que Dieu soit justifié. Nous ne devrions pas nous étonner de cela, mais au contraire, reconnaître le temps auquel nous sommes parvenus. On est à la fin, n'est-ce pas? C'est vrai, on est à la fin. Voilà pourquoi c'est une grâce, c'est une bénédiction, une grande bénédiction. Quand dans une famille, il y a la guide du Saint-Esprit. Et ça, je le vois avec le calme et je sais que c'est la vérité. Et quand il y a la guide du Saint-Esprit, quand il n'y a pas l'influence d'un étranger, appelons cela l'étranger, c'est vrai, c'est un étranger, alors le Seigneur peut nous parler et peut nous guider. Et tout le monde est soumis à l'unique guide qui est Dieu. Et en ce moment-là, le Père, le mari, qui est sous l'onction, est la guide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est vrai. Vous voyez? Donc, je continue la lecture. Nous n'avons pas toujours affaire avec des amis et des confidents, mais aussi avec des personnes perfides qui, il est vrai, parlent aimablement, mais qui, dans leur cœur, nous préparent un piège. Combien de fois vous l'avez déjà expérimenté? Même des croyants, même des chrétiens qui vous parlent bien devant, et après, mais voilà. Il suffit de tourner les épaules et eux tournent leur langue. Vous voyez? Ils n'ont pas cette force. Ils ne sont pas assez matures. Ce ne sont pas des gens matures. Ce ne sont pas des croyants matures. Ils n'ont pas eu une expérience directe avec Dieu. Alléluia. Vous y croyez? Il n'y a pas eu d'expérience directe avec Dieu. Je continue la lecture ici. Combien souvent n'est-il pas dit, tu peux te confier à moi? Et qu'arrive-t-il lorsque l'amitié est terminée? Ça c'est vrai, mes amis. Combien de fois on voit qu'il y a un feu qui commence, un feu initial, on dirait que tout est beau, et puis après, petit à petit, que le temps passe, pour une chose ou l'autre, l'influence de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre arrive, et l'amour au début, l'amitié du début initial, cette communion initiale, commence à sombrer, et commence à diminuer petit à petit. Et vous voyez que les personnes changent. Vous voyez que les personnes se refroidissent, n'est-ce pas? Que Dieu nous fasse grâce et nous aide. Voilà pourquoi si ça dépendait que de toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Les exhorter continuellement, toujours devoir le cajoler, toujours leur parler. Mais nous tous, nous sommes responsables devant Dieu. Nous tous, nous devons prendre notre propre responsabilité pour savoir qui nous influence, qui nous guide et comment nous sommes en train de marcher, n'est-ce pas? Ça, c'est la réalité divine et pratique. Alléluia. Donc, et qu'arrive-t-il lorsque l'amitié est terminée? Tout est exploité de façon éhontée. Et on commence à dire, ah, regarde ce qu'il a fait lui, et lui, lui, et elle, elle. Terrible, c'est terrible. Dieu doit nous faire grâce. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Je le crois de tout mon cœur. L'épouse, elle n'est pas comme ça. Elle marche toujours avec une même régularité, avec la même constance, toujours la même influence, toujours le même amour, toujours la même conduite. Ainsi dit le Seigneur dans la parole de Dieu. Vous y croyez? Mais quand l'homme charnel, la vieille nature est influencée, l'homme religieux, alors il y a ça qui arrive. Alors là, il y a ce détachement qui se fait, et c'est faux. Et ça, c'est faux, parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'a jamais, jamais voulu cela. On en a parlé dans les jeudis précédents, dans les lettres du frère Franck. Donc il faut avoir une communion intense les uns avec les autres et avoir confiance les uns les autres. Donc on parle d'influence. Proverbe 11, 13. Lisons Proverbe. On va y arriver. On termine ici. Proverbe 11, 13. Dieu bénisse nos cœurs et sa parole, surtout sa parole. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Proverbe 11, 13. Celui qui va rapportant révèle le secret. Donc celui qui va rapportant révèle le secret. Mais celui qui est d'un esprit fidèle couvre la chose. Voilà. Je répète. Proverbe 11 et 13. Celui qui va rapportant révèle les secrets. Le secret. Parler mal. Il révèle. Mais celui qui est d'un esprit fidèle couvre la chose. Notez cela. Et que nous tous, nous puissions vraiment l'enregistrer dans notre cœur. Juste. Je relis encore une fois. Celui qui va rapportant les choses, révèle le secret des autres. Mais celui qui est d'un esprit fidèle couvre la chose. Alléluia. Quelle bénédiction, voyez. Que Dieu vraiment nous bénisse. Un autre. Jean 2, 25 aussi. Jean 2, 25. Une parole prophétique. Jean 2, 25. Jusque maintenant, c'est comme ça. C'est pour ça que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Nous, on ne voit rien, mais lui, il voit tout, il connaît tout. Donc, ici, au verset 24. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Le Seigneur connaît les cœurs et le secret des cœurs. Donc il ne faut pas être comme ça. Il faut être des hommes matures, qui regardent en avant, et qui sont vraiment ancrés en Christ. et plutôt qu'il souffre pour sauver un frère ou une sœur. Donc je continue à lire le frère Franck ici la lettre. Donc tout est exploité de façon éhontée. N'est-il pas grand temps que nos yeux s'ouvrent sur le jeu trompeur de l'ennemi? N'est-il pas grand temps que nos yeux s'ouvrent sur le jeu trompeur de l'ennemi? C'est l'exhortation que le frère Franck nous fait. Il est écrit de notre Sauveur, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il les voyait au travers des hommes. Et nous aussi devons reconnaître que c'est à un seul que nous pouvons tout dire, en qui nous pouvons seulement nous confier, car lui seul est notre fidèle souverain sacrificateur, qui nous comprend en toutes choses. » Hébreux 2, 17. Je relis. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il voyait au travers des hommes. Et nous aussi, nous devons reconnaître que c'est à un seul que nous pouvons tout dire, en qui nous pouvons seulement nous confier, car lui seul est notre fidèle souverain sacrificateur, qui nous comprend en toutes choses. Hébreux 2, 17. Il y a aussi Hébreux 4, 14 aussi. Lisons aussi rapidement cela. Donc, le frère veut encore relire Hébreux 2, 17. Attention, mes frères, attention. Quand il est écrit seulement Dieu, seulement le Seigneur, en qui nous pouvons nous confier, ça c'est juste, pas de doute. Mais il y a une autre parole qui dit, une autre parole qui dit aussi, donc, je disais, dans le sens que si on ne peut pas avoir confiance dans les frères, alors, qu'est-ce qu'on... Donc, non, je parle du côté spirituel. Dans Philippiens, il est écrit qu'on peut se confier les uns les autres, soyez soumis les uns aux autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des gens qui titubent, ou parfois on se cache, c'est-à-dire on n'est pas clair, parce qu'on a toujours la peur que l'autre peut nous parler mal sur le dos, alors on a peur. Et alors quand viendra la maturité dans l'Église de Jésus-Christ, quand viendra la maturité des frères? Juste, n'est-ce pas? Alléluia. C'est le moment maintenant que cette maturité soit manifestée. Parce que les souverains sacrificateurs, ce sont ceux qui présentent l'offrande et ils prient pour les pécheurs. Le Lévite, le souverain sacrificateur, il priait pour les pécheurs. N'est-ce pas? Quand on va chez frère Franck, et qu'on prie, et lui prie pour nous, on y va. Et on demande qu'il prie pour nous, pour un besoin. Donc je dois avoir confiance. Parce que je lui parle de choses. Je lui dis ce que j'ai qui ne va pas, que des choses que je pourrais qui pourrait, on ne sait pas. Donc je ne dois pas avoir peur de lui, ou de lui dire, sinon, comment il va savoir la chose? Et je ne dois même pas avoir peur de penser qu'un jour, tel frère, il va raconter des histoires. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut arriver à la maturité dans l'Église du Christ. Je ne peux jamais imaginer qu'un jour, le frère Franck dévoile mon secret, et qu'il aille le dire à ma fille, par exemple, ou qu'il aille le dire à un frère, à tel frère, quelconque. Je ne peux jamais imaginer cela. Donc ma foi est tranquille. J'ai l'assurance, parce qu'il s'agit de la foi. Vous y êtes. Il s'agit de la foi ici, et d'assurance de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on manque encore de cette assurance intérieure, parce qu'on a encore peur, nous-mêmes, de pouvoir nous ouvrir devant le Seigneur. Parce que en toi, il y a le Seigneur, en moi, il y a le Seigneur, en lui, il y a le Seigneur, juste. Et si je me trompe, vous devez me corriger. Moi, je veux être corrigé si je me trompe. Alors, où est le Seigneur? Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc, lisons ce passage. Donc, je voulais mettre une petite parenthèse, une petite note de bas de page. C'est important que les frères réalisent ce qu'est Christ, ce qu'est le souverain sacrificateur. Lisons d'abord Hébreux 2, 17. Tu l'as fait. Donc Hébreux 2:17. Si. Hébreux 2:17, on va le lire. 2:17. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur des choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Je veux simplement dire, qu'est-ce que ça signifie cela? Ça veut dire que votre propre tentation, quand vous la remettez, vous la mettez sur le Seigneur, sur Jésus-Christ, lui-même, il absorbe cette tentation, et lui-même, il ne peut pas être tenté, parce qu'il a déjà vaincu. Il est fort, il a déjà vaincu la guerre, la bataille. Il a déjà écrasé la tête du serpent. Donc, il ne peut pas être tenté. Vous comprenez ce que je dis? Je crois que oui. Je crois par le Saint-Esprit, vous comprenez. Lui-même. Quand, par exemple, je dépose sur lui tous mes péchés, il ne peut pas être influencé, lui, pour pouvoir tomber. Parce que souvent, quand toi tu confesses à un frère qui n'est pas assez mature, ou une sœur pas assez mature, et quand on parle beaucoup comme ça, les personnes qui ne sont pas matures, ils vont polluer eux-mêmes et les autres aussi. Vous croyez ça? Parce qu'ils n'ont pas la force de soutenir ce poids-là, de garder ce poids-là. Ils n'ont pas la force de le garder. Alors ils tombent eux aussi. Mais là, on voit qu'il y a un rocher, on voit qu'il y a une solidité, il y a quelque chose de puissant ici, où là je peux vraiment, vraiment, avec assurance, m'appuyer, parce que lui, Jésus, il ne peut pas être, il peut ni être tenté, ni tomber, fini. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. C'est merveilleux. Car en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Ça veut dire qu'il est déjà passé par là, il a déjà fait le chemin, il a déjà fait l'expérience. Voilà pourquoi un jeune, il ne peut pas être ancien, parce qu'il est trop jeune. Il est trop jeune. Il doit avoir de l'expérience, il doit avoir des enfants, il doit avoir de l'expérience, il doit avoir subi des luttes contre Satan, des luttes contre le diable. Et il doit avoir vaincu la bataille pour pouvoir donner à son tour, transmettre à son tour cette victoire à ceux qui seront devant lui. Vous pouvez dire Amen. Levez la main et dites Amen. Amen. Alléluia. C'est important. Très important, mes amis. C'est ainsi disent les Écritures. C'est la vérité. beaucoup de fois on a été mis dans une situation de panique, une situation difficile, mais Dieu, que Dieu nous aide. Donc j'aimerais finir ici, aussi Hébreux 4, 14, aussi j'aimerais lire, Hébreux 4, 14, on connaît ce passage, Hébreux 4, 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. C'est pour ça que je disais entrons dans l'attente. Alléluia. Mais laissons cela. Entrons dans l'attente. Et encore ici, dans Hébreux 5, 17, pardon, 5, 7, pardon. C'est Hébreux 5, 7. Hébreux 5, 7. Qui, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, à cause de son amour envers nous, envers la créature. Quoi qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été consommé ou consacré, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel, étant salué par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Quelque chose de spécial et particulier. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi maintenant, c'est le temps de la maturité. C'est vraiment le moment de prendre en main ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné, Dieu? Est-ce qu'on est vraiment sous cette juste influence? Est-ce qu'on est vraiment guidé par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on est pris et soumis à la parole du message, à la parole de l'heure, à l'enseignement? Lisez, Actes des Apôtres, chapitre 3, mais on va finir bientôt. C'est important, parce qu'on voit comment l'enseignement vient d'un seul endroit. L'enseignement ne peut pas venir de différentes sources. Parce que si ça vient de différentes sources, vous serez toujours influencé. Parce que la parole, c'est une semence. Le mot qui parle, les choses parlées, prononcées, ce sont des semences. C'est écrit dans Matthieu. L'enseignement doit venir d'un seul endroit. Et cet endroit, c'est pas Franco, c'est pas Branham, bien sûr ce sont des instruments, mais ça doit venir de l'enseignement du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est juste. Alléluia. Afin que nous ayons tous le même enseignement et la même influence. La même influence. Voilà pourquoi, comme je le disais, il y a 10 églises ici, gloire à Dieu. Mais qu'ils viennent, amen, qu'elles soient remplies, amen. Mais qu'elles puissent toutes avoir le même esprit. On peut se visiter, on peut être en communion fraternelle, on peut être en harmonie, où il n'y a pas des luttes, ou quelqu'un qui dit, toi tu dois prévoir là sur moi, toi tu dois être le chef sur moi. Non, chacun a sa place. Imaginez la bénédiction, imaginez la grâce. Est-ce que ça ne devrait pas être comme ça à la fin? Donc je vais m'arrêter, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je finis ce petit paragraphe qui reste. Hein. Désormais, nous ne nous abandonnerons plus entre les mains des hommes, mais au contraire, dans les seules mains de Dieu. car nous avons reconnu les intentions meurtrières de Satan. Il est écrit, nous connaissons les machinations de Satan. Nous avons reconnu les intentions meurtrières de Satan. L'épouse aura uniquement la pure parole et la pure action de l'esprit, et elle ne s'ouvrira plus à aucune influence étrangère. Amen. Alléluia. C'est vrai? Amen. On peut le dire devant le Seigneur. Amen. Que la parole de Dieu est la vérité. Et que l'onction de Dieu, c'est une grande bénédiction. C'est une grâce. Je le dis toujours, c'est une grâce. Dieu ne pouvait pas nous traiter différemment. Il ne pouvait pas nous traiter différemment. Pensez-vous que la descendance de Seth, bon, nous, on la voit pas, mais Dieu la voit. Tous fils et filles de Dieu. Parce qu'ils ont accepté. Ils ont cru. On a cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a cru en son nom. Et à ceux qui croient, il leur a donné cette autorité de devenir des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous l'êtes? Amen. 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 J'aimerais écouter Amen et savoir et vous entendre dire que la parole de Dieu a raison, que l'Esprit de Dieu nous réveille, qu'il puisse réveiller ce temps dans lequel nous sommes, ce temps un peu bizarre dans lequel nous sommes, et qu'il nous donne vraiment la victoire sur nous-mêmes. La victoire sur nous-mêmes, c'est vrai. Je sais qu'il y a des enfants ici qui vont aller au lit maintenant parce que demain ils doivent aller à l'école, donc je sais. Mais on s'arrête ici. Gloire à Dieu, on s'arrête. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Vous voyez combien de choses précieuses on a laissé échapper, ben disons une partie déjà, et combien encore il y a de choses qui doivent être redressées chez les gens du message, chez les frères du message, mais peu. Ben, il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés, c'est vrai. Mais il y a peu d'élus. Et on veut faire partie de ces élus. Et nous sommes de ces élus. Alléluia. Parce que Dieu nous fait grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse tous. Amen. Dieu nous bénisse. La prochaine fois, ce sera une mise au point. On va voir ce que le Seigneur va nous donner. Nous allons prier et nous allons aussi prier pour le papa de la sœur Déborah. Donc vous ne l'avez pas connu, moi je l'ai connu. C'est vraiment un homme à l'ancienne mode. Vraiment un grand caractère, et à force d'avoir un gros caractère, caractère dur, ben des fois on casse quelque chose. Que Dieu fasse grâce, qu'il l'aide. Donc, avant il témoignait beaucoup, maintenant son épouse est décédée il n'y a pas longtemps, que Dieu l'aide. Il a un an de plus que moi. Et quand on allait ensemble en voiture, que je le suivais. Donc moi je suis quelqu'un de rapide, mais lui c'était très très rapide. Je devais toujours le demander de décélérer. Que Dieu le bénisse. Donc il a toujours cet esprit pour conduire. Donc ici il se sent toujours comme ça. Mais voilà, bon, vous avez été béni, moi j'ai été béni. Vraiment, mon être intérieur se réjouit dans le Seigneur. Ce matin, J'ai mesuré ma glycémie. J'avais ma tête qui tournait. C'est rare. C'est rare que la tête me tourne comme ça. Et jusqu'au début de la prédication, j'avais la tête qui tournait. 190 de glycémie. Alors, j'étais peut-être travailler dehors. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'avais mangé un petit morceau de tarte, et voilà tout. Et j'étais vraiment mal. Mais le Seigneur est grand, le grand consolateur. C'est le grand guérisseur. Et je lui en suis reconnaissant. Alléluia. Nous allons prier et invoquer le nom du Seigneur, qui a à cœur ce désir, cette soif d'invoquer le Seigneur, le nom du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Encore ce soir, tu as parlé, et comme on l'a aussi écouté à travers Frère Franck pour la correction, pour le redressement, dans ces temps difficiles, nous te remercions encore une fois. Parce que tu parles à travers la bouche de tes serviteurs, à travers la bouche des frères, mais surtout à travers ta parole. Parce que c'est ta parole qui, une fois qu'elle est prononcée, est toujours valide. Nous te remercions de veiller sur nous, sur nos familles, et que vraiment tu donnes la sagesse par ton esprit. Nous te remercions, Seigneur. Je veux unir ma prière avec les frères et sœurs pour le papa de la sœur Déborah. Sois dans ses besoins, dans ses difficultés, tu es tout puissant, que tu puisses mettre en ordre toutes choses qui ne sont pas à leur place. Nous te remercions parce que tu as été avec nous. Nous te remercions pour toutes choses et pour toutes nos affaires personnelles. Je sais que tu prends soin de cela. Et nous reposons notre foi là-dessus, notre assurance sur toi. Nous te remercions dans le nom saint et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour tout. Amen. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Jésus-Christ. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.